ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Jacinthe Ouellette, directrice générale du Chic Resto Pop. Bien se nourrir et manger à sa faim dans la fierté et la solidarité. Voilà l'idéal et le fil conducteur du parcours de notre invitée Jacinthe Ouellette, directrice de l'organisme Le Chic Resto Pop. Au début des années 80, Madame Ouellette a aussi été l'instigatrice des cuisines collectives qu'on retrouve maintenant un peu partout au Québec. Nous allons découvrir une femme qui croit qu'on peut aider son prochain tout en aidant à se prendre en main avec l'accompagnement et vers l'autonomie. Depuis 1985, le Chic Resto Pop a produit au-delà de 3 millions de repas pour les personnes défavorisées, en plus de servir le tremplin vers l'emploi à plus de 1500 personnes. Le Chic Resto Pop, c'est quoi? C'est 500 repas par jour à la cafétéria, 300 repas individuels congelés par jour vendus, 500 repas par jour distribués aux enfants des écoles de quartier, 48 apprentis travailleurs formés chaque année et 30 participants par année formés pour être éducateurs. On la reçoit tout de suite après. Madame Ouellette, bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour, très heureuse de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup.
Vous avez eu beaucoup de courriels aujourd'hui sur notre Twitter, les gens qui vous félicitent, les gens qui sont heureux, okay. Les gens qui ont hâte de vous connaître davantage, savoir c'est qui cette femme derrière cette fabuleuse entreprise humanitaire, mm-hmm. sociale. Avant de débuter, j'aimerais avoir votre réaction sur le temps d'arrêt. De okay. 225 minutes, 225 millions hier.
Yeah.
Comment ça s'est passé dans votre organisme et pourquoi?
Écoutez, nous, c'est sûr que ça nous touche, hein, ces choses qui s'en viennent. Et au niveau du Resto Pop, on a sensibilisé surtout la population qui vient manger au Resto Pop, leur expliquer pourquoi on fermait, là, c'est mm-hmm. quoi la cause et que ça va les toucher eux autres aussi et que ça a un impact, qu'ils devraient marcher avec nous. On a quelques clients qui sont venus avec nous et les employés. Et nous étions quand même pas mal de monde à cette marche sous la neige quand même.
Oui, il faut
mais,
le dire.
Moi, je trouve que ça l'a eu... on n'a pas eu beaucoup parlé à la télévision, par exemple. J'ai pas vu grand-chose. Je voyais plus le projet J'y vois Montréal, dont on était là aussi. Une autre représentante, Suzanne Boudria du Resto Pop, qui était là pour représenter J'y vois Montréal aussi. Fait qu'on était à deux places différentes.
Okay.
Mais je pense qu'il faut dénoncer ce qui s'en vient, puis il faut travailler fort là-dessus. Mm-hmm. L'austérité va toutes nous toucher, je pense.
Mais oui, puis vous le voyez au quotidien.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, les gens ont compris que dans de 225 minutes, ils n'auraient pas de repas, puis ça s'arrêtait pour une bonne cause,
oui,
puis il y en a qui sont venus marcher.
On a tout sensibilisé la population là-dessus et le monde était d'accord à ce qu'on ferme.
Bon, parfait. Oui. Alors, Madame Ouellette, vous avez grandi où? Comment vous étiez petite?
Bien, premièrement, j'étais dans une famille, une grande famille. On est très 13 enfants. Donc, je viens de Rimouski, Saint-Odile-sur-Rimouski. Naturellement, j'ai vécu dans la pauvreté, ça, c'est sûr. Je connais vraiment ça. Et c'était des années... Moi, on est arrivé à Montréal. Je pense que ma mère a eu la bonne idée de nous déménager tous, la famille au complet. Je pense qu'elle nous a sauvé la vie quelque part en nous déménageant à Montréal pour que les plus vieux aient du travail et ainsi de suite. C'est ça qui a fait qu'on a déménagé, là.
OK. Donc, les 13 enfants, est-ce que c'est une question tout à fait à propos pour vous? Est-ce que vous mangez à votre faim?
Pas vraiment.
Non?
Ça a été des années un peu difficiles. Une chance qu'il y a la forêt pas loin et qu'il y a des petits fruits qui poussent. On allait en chercher assez régulièrement. C'est sûr que mon père était bûcheron, donc il partait longtemps dans le bois, mais on avait une petite... on s'était fait un petit jardin et des petites poules qu'on achetait de temps en temps à Pâques. Là. Fait que c'est avec ça qu'on se débrouillait le plus possible. Et mon père envoyait de l'argent un peu là aussi. Là. Mais c'était des années... dans ma tête à moi, je ne voyais pas cette pauvreté-là. Je l'ai vue quand on est arrivé à Montréal. On a vu la différence. Là.
Okay.
Et en voyant les plus vieux chez nous qui travaillaient, fait que ça a fait une différence. Là. J'ai vu que la pauvreté elle a plusieurs significations. C'est pas, c'est pas parce qu'on a manqué d'argent ou de bouffe, parce que pour nous, on mangeait correct.
Okay. T'sais?
Mais tu voyais, tu n'avais pas toujours. On mangeait la même affaire, dans le fond.
Okay.
c'est ça. On mangeait des carottes, des navets. Là. T'sais, c'était pas,
pas de viande?
Ben on n'avait pas beaucoup.
Très peu, hein?
C'était peu. Ça fait que c'est un peu ça qui fait que après, quand tu vois plus tard que tu travailles, tu es capable de te payer d'autres choses. C'est ça qui fait que tu as une différence, là.
Et quand vous arrivez à Montréal, ça se passe comment? Parce que là, vous avez dit, ma mère, ma famille, vous voulez être les 13 enfants ensemble. Les 13, vous êtes où? Dans quel quartier? Êtes-vous justement à Hochelaga-Maisonneuve?
Non, on a déménagé sur, dans le fond, dans ces années-là, c'était le plateau Montréal. On est arrivé dans un... On restait à Rimouski dans un 4,5. On est arrivé dans un 10,5 à Montréal.
Okay.
Et là, on s'est perdu dans cette maison.
Ben oui!
C'était grand. Même si on était encore trois par chambre. Fait que c'est sûr que quand on est arrivé à Montréal, juste la différence de température, on a tous été malades.
Ah ouais.
On a tous été...
Il n'y avait plus d'air pur, là.
Je ne sais pas trop. En tout cas, on a tous été malades. C'est, étant donné qu'on a déménagé, c'est un gros déménagement. On est arrivé avant le camion, donc pas de meubles, pas rien.
Ah.
Et on couchait à terre les premières journées parce que c'est la voisine qui s'est aperçue qu'on ne sortait pas dehors et qui s'est aperçue qu'on était tous... Elle est venue sonner pour nous demander qu'est-ce qu'on faisait parce qu'elle nous a vu débarquer en gang, une couple de taux, là. Puis là, elle dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent pas dehors. Mais on était toutes malades. On avait toute la grippe.
Aïe, aïe, aïe.
On a tout poigné la grippe. Je sais pas si c'est le changement de température, traverser les ponts, je sais pas trop.
Donc l'air est moins pur, hein, c'est sûr, dans votre boue.
Mais c'était quelque chose... Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait plus d'entraide quand même avec le voisin qui est venu nous aider. Ils nous ont amené du manger. Fait que ça nous a encouragés à rester à Montréal un peu plus. Et en même temps, mes frères et mon père avaient commencé à travailler, eux autres aussi. Fait que eux autres, ils ont déménagé avant nous, dans le fond.
Bon. Et vous, comme petite fille, est-ce que vous saviez déjà, bon, vous déménagez, c'est la grande ville. Là, vous voyez que quand même, il y a un peu plus de place que votre 4,5. Vous allez dans un 10,5. Est-ce que vous voyez un avenir? Est-ce que vous pensez, moi, plus tard, je vais être... Si, je vais être ça, est-ce que vous pensez à ça?
Pas vraiment. J'avais 9 ans. Le début, c'était l'école. C'est sûr qu'on est arrivé ici, là, au niveau de l'école, c'était un peu plus avancé qu'en dehors à Rimouski. J'ai grandi là-dedans. Je me suis assez débrouillée quand même. Je créerais qu'on a eu le système D assez facile pour se débrouiller parce qu'en même temps, on ne voulait plus vivre la pauvreté ici. On ne voulait pas le dire. On ne voulait pas le voir. Fait que c'est sûr que ceux qui nous disaient qu'on était pauvres à Rimouski, on le voyait plus. On était plus en restriction au niveau...
Ah ouais, à Rimouski,
on était plus en retrait pour tout ça. Mais rendu ici, on a dit qu'il n'y en a plus un qui va nous le dire.
Ouais, ouais.
Fait qu'on s'est plus fait un mur, je dirais, pour ne pas se faire attaquer comme ça.
Okay.
Et c'est comme ça, je pense, qu'on a grandi et qu'on a... On s'est débrouillé pour ne pas que ça paraisse tout le temps.
Okay.
On sait c'est quoi, je sais c'est quoi très bien.
Mm-hmm.
C'est pas toujours évident. Même, j'ai fait des années sur l'aide sociale. Quand j'ai été mariée, je me suis divorcée, j'ai deux enfants, j'ai fait quelques années d'aide sociale. Je sais c'est quoi, les fins de mois,
ça.
Ouais. Mais je trouve que même aujourd'hui, les fins de mois, je pense qu'ils sont plus durs que dans mon temps quand j'étais sur l'aide sociale.
Ben oui,
je pense
tout coûte cher. Là, vous êtes bien placé de savoir qu'une épicerie, ça n'a pas d'allure.
Ça n'a pas de bon sens.
Même les autres pays nous pointent du doigt. Hein?
Oui, tout à fait.
Même
tout
les Français qui viennent ici vont faire l'épicerie, ils vont dire ça n'a pas d'allure, comment vous payez?
Non, c'est fou. Ça a augmenté de 40% les coûts. Là. Puis là, je me dis, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, avec s'il y a le moindrement, il y a des dettes, là. Ouh là là, ça doit être pas évident.
Alors, donc, à ce côté-là, de ne pas vouloir montrer sa pauvreté, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous faites comme études? Comment vous êtes à l'école?
Bien, moi, dans le fond, j'ai étudié. Moi, ce que je voulais faire plus tard, c'était décoratrice intérieure. C'est ça que je voulais étudier. J'ai étudié pendant un an. Je suis allée faire des stages à Montréal pour ça. Et quand il a fallu se perfectionner, dans le fond, il fallait aller à Paris pour étudier ça. Puis là, j'avais pas l'argent. Mes parents n'avaient pas l'argent. Donc, on va aller travailler ailleurs. Fait que j'ai été travailler dans un hôpital pendant 7 ans. Mm-hmm. Au niveau de l'alimentation, j'étais aide alimentaire. Et dans le fond, on montait les cabarets pour les patients et tout ça. Et travailler avec les enfants aussi qui avaient les maladies contagieuses dans le temps. Fait que j'ai adoré mes années de l'hôpital. Les 7 ans que j'ai faites là, c'était vraiment... j'ai eu du fun.
Mais Madame Ouellette, vous êtes déjà dans la cuisine, là, parce que c'est intéressant comme cheminement.
C'est oui,
que,
c'est
là, vous êtes, vous avez déjà les mains dans les plats, comme on dit.
Tout
là.
À fait.
C'est, pas les c'est, pieds,
c'est
les mains.
Pour ça que même les années, quand je suis arrivée au chic Resto Pop, on se pose toujours des questions. Restes-tu dans ce milieu-là? Parce ouais. qu'on fonctionnait avec des subventions au début. Donc, c'est incertain. L'avenir est incertain. Fait que je me disais toujours, ben ça m'a donné le goût, dans le fond, de me partir un restaurant dans le temps.
Okay. Fait que je m'étais Donc, dit... Donc là, vous êtes à l'hôpital, vous cuisinez, ouais. vous aimez les
J'aime
gens.
J'aime le contact avec les gens ouais. qui sont malades. J'allais leur parler souvent, même si je faisais les menus et tout ça. Et c'est quand je suis arrivée avec le Chic Resto Pop, dans le fond, moi, j'ai parti, avant d'arriver au Resto Pop, j'ai parti les cuisines collectives
oui,
au
avant,
Québec.
Avec votre sœur. On va remonter dans le temps, puis on va ouais. en parler un petit peu plus okay. tard. On va y aller chronologiquement.
Okay.
Mais donc, à l'hôpital, est-ce que vous étiez bonne à faire des repas? Est-ce que vous aviez... Ben, parce qu'il y a des gens qui ont la douance. Là, on leur donne très peu de choses dans le frigo, puis ils se débrouillent. Est-ce que
ben
vous aviez
moi,
ça?
Oui, oui, oui. Moi, je me débrouille très bien. Dans le fond, la famille, 13 enfants,
c'est ça.
On faisait les repas pour les 13. Et ça fait que oui, on a appris à se débrouiller, à faire de la nourriture consistante et nourrissante parce qu'on n'avait pas souvent tout le temps des menus corrects. Mais oui, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, puis... Je suis bonne cuisinière. En tout cas, mes petits-enfants me le disent.
Alors, on va poursuivre avec vous, avec votre belle histoire et surtout revenir au présent de ce que vous faites, qui est absolument incroyable. Et on a besoin de vous, mm-hmm. vraiment besoin de vous. La société a besoin de vous. Vous savez très bien que ces gens qui font la différence, nos invités choisissent leurs chansons. Mm-hmm. Alors, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Il faut que vous me disiez le pourquoi.
OK.
À chaque fois, c'est ça. Alors, vous avez choisi la chanson de Stephen... mon Dieu. Faulkner. Mm-hmm. Mm-hmm. Et Toujours un baume.
Ouais.
Pourquoi?
Ben, cette chanson-là, dans le fond, c'est quand on a fait le film au Chic Resto Pop en 90. C'est un film que nous-mêmes, tous les employés qui vivaient une situation précaire sur l'aide sociale, on était sur des programmes, on a composé, on a donné nos mots, nos propres mots, nos paroles à Steve Faulkner, dans le fond, qui a écrit les chansons avec nos mots. Fait que ça, c'est une des chansons d'un des employés qui était Daniel. Nous, au niveau de la cuisine, on en avait fait une. On est tous dans le même bateau. Ça fait que c'est les chansons vraiment touchées par les personnes qui le vivaient. Et nos paroles, c'était nos paroles. C'est cette fierté-là qu'on avait de faire ce film-là, c'était ça.
Donc, ça vous touche d'autant plus d'avoir quelqu'un qui l'a fait, puis vos paroles à vous.
Oui, tout à fait. Ça a été senti et pensé. Et je pense que ça a été une très bonne idée, ce film-là, de faire à ce que les gens le fassent de bout à l'autre.
Oui, oui. Alors, on écoute Daniel.
OK.
C'est pas une histoire au passé simple, ni tout à fait les mémoires d'un trimpe. Juste une petite toune ben ordinaire pour vous raconter tous mes déboires. Mon père est un caporal dans la police. On peut pas dire qu'on était ben complices. Parce que je fumais du pot, puis je dropais de l'acide. Mon sacré doigt, j'étais juste un kid. Je me suis ramassé à l'école de réforme. Pas le droit de sacrer, pas le droit de mâcher de la gomme. Ils ont essayé de me faire porter l'uniforme. Mais ça a pas marché, je suis toujours un bum. À 18 ans, je suis parti sur le chemin. Rien dans les poches, rien dans les mains. J'ai essayé toutes sortes de boulots. J'ai été shipper, vidangeur, puis cuistot. J'ai eu une job dans une shop de bicycle. Mon sacré doigt, parce que j'étais trop beatnik. J'prenais mon temps pour rouler mon joint. Puis j'aime pas ça me lever de bonne heure le matin. C'était pareil comme à l'école de réforme. Pas le droit de sacrer, pas le droit de mâcher de la gomme. Ils voulaient que je sois une autre copie conforme.
mais ça va marcher. J'suis toujours un bum, toujours un bum. Chic restaurant populaire, je passe la mop puis je débarrasse les tables, je fais ma petite affaire puis je suis rendu stable. C'est bien plus le fun, c'est bien plus simple qu'une job straight de 9 à 5. Je suis peut-être pas riche, mais au moins je me débrouille. Puis soir après la job, quand j'ai serré ma vadrouille, je vais prendre une coupe de bière avec mes chums. On se raconte nos histoires d'école de réforme. On rit de ça, puis on a ben du fun. Puis à quelque part, je le sais, je serai toujours un bum. 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 Toujours un bum.
Toujours en compagnie de Jacinthe Ouellette, directrice générale du Chic Resto Pop. Est-ce que Daniel est toujours un bum?
Non. Non, il a changé. Il est retourné à l'école. Il a fait ses études et il travaille pour une maison pour des jeunes en difficulté. Puis il vient faire son tour. De temps en temps, il vient manger au Chic Resto Pop et il nous donne des nouvelles en même temps.
Ça, ça doit faire plaisir hein, de revoir les
ceux
gens.
Ceux qui ont fait... Dans le fond, ouais. Le Chic Resto Pop a servi d'un lieu d'appartenance, mais un lieu aussi pour permettre aux gens de s'en sortir. Mm-hmm. Fait que quand tu vois qu'ils reviennent puis qu'ils disent « Hey, je suis rendu là », moi, c'est ma fierté, dans le fond. J'ai pas besoin de...
C'est parce que votre organisme a réussi à leur donner de l'estime
tout
d'eux-mêmes.
Tout à fait.
Leur dire qu'ils existaient, qu'ils étaient
qu'ils
pas rien.
Place.
Puis
qu'ils ont
une place dans la société.
C'est ça.
Exactement. Ouais. Et vous, votre place, alors vous la faites, on sent que ça se dessine tranquillement. Mm-hmm. Donc, vous allez à l'hôpital, vous aimez être avec les gens, vous aimez cuisiner, donc
ouais.
Vos deux passions, finalement. Mm-hmm. Vous aimez aider.
Oui, beaucoup.
Beaucoup aider.
Beaucoup. Ouais.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans votre vie personnelle à vous, ça prend comme un virage.
Oui.
Comme à plusieurs femmes que ça arrive. Mais
ouais.
Vous, au lieu de rester tranquille, mm-hmm. Vous vous divorcez.
Oui.
Deux garçons, c'est ça?
Deux garçons, oui, tout à fait. Qui avaient un de 2 ans et l'autre 4 ans. Donc, deux
tout
jeunes
jeune,
enfants.
Ouais.
Oui, tout jeunes enfants. Et moi, j'avais fait le choix de ma vie... même si c'était divorcé, j'avais l'intention de rester à la maison les premières années, au moins 5-6 ans, le temps qu'il y a à l'école, à maternelle et tout.
Mm-hmm.
Fait que j'avais fait ce choix-là, donc c'est sûr que j'étais sur l'aide sociale. J'acceptais d'avoir moins, parce que dans ces années-là, j'avais 520 par mois. Naturellement, j'arrivais pas. Et c'est un moment donné, avec une de mes sœurs, j'ai dit à ma sœur, ça n'a pas de bon sens qu'on n'arrive pas, puis je sais qu'on a moins d'argent, mais en même temps, moi, je voudrais que mes enfants fassent du sport. J'ai pas d'argent pour lui payer ça.
Et là, vous êtes toute seule, là, à ce moment-là, quand vous rencontrez votre sœur, OK?
Ouais. Je suis toute seule sur mon bar, puis elle est toute seule sur son bar. Elle vivait la même situation, mais elle, c'était dû à un accident d'auto. Son mari est accidenté. Et elle s'est retrouvée sur l'aide sociale, elle, avec.
Mm.
Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, là, j'y pense depuis un bout, puis je vois ça, les Italiens, ils font ça, ils achètent une maison ensemble, ils la payent, puis après, ils achètent l'autre maison pour l'autre, puis ils la payent encore. Mais j'ai dit, moi, je trouve ça original, cette idée-là. Puis j'ai dit, je pense qu'on devrait mettre notre argent ensemble. D'abord, on a 50 pièces à peu près chacune par mois de lousse qu'on pourrait mettre ensemble, puis on cuisine avec ça.
Okay.
On achète, puis on se fait des repas. Ça a commencé comme ça. Fait que les premiers temps, on mettait 50 $ chacune.
Ouais.
Et on a toujours fait 7 repas principaux, 2 soupes, 2 desserts. Fait qu'on faisait comme pour un mois la nourriture.
OK.
Nous autres, on adorait ça parce qu'on n'avait plus de gaspillage alimentaire, on perdait plus.
Mais au début, c'était pour vos deux familles.
Oui.
OK. Alors, ouais. ça part familial. Ouais. Vous mettez ensemble, c'est solidarité.
Ouais.
En même temps, vous goûtez, je mets ça entre guillemets, là, à ce que c'est que l'EBS, parce que c'est tellement difficile d'y arriver. Donc, vous êtes là-dedans. Là, vous dites, là, on va manger convenablement.
Ouais.
Je pense qu'en lisant vos notes, là, il n'y avait pas de viande avant ça. Là.
Non, non.
Ça ne mangeait pas beaucoup de viande dans cette famille-là. C'était trop cher, la viande.
C'était trop cher. Bien, avec ça, on pouvait se permettre ça. Puis on faisait toujours un repas, genre sauce à spaghetti, qui était le dépanneur quand que la visite arrivait. Parce que ça, c'était
bonne
plus
sauce
facile.
Congelée, puis après ça, quand la visite était là.
C'était plus facile quand il y avait de la visite que de faire les autres repas.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça qu'on a appris. On s'est débrouillé. On faisait des repas très traditionnels, familiales aussi. Donc, les enfants, ils n'ont pas manqué de manger.
Okay.
Et aujourd'hui, quand je les vois, ils sont dans la trentaine, là, ils ne se souviennent pas de ces années-là.
Ouais.
Fait que pour moi, j'ai réussi à le faire passer ce cheminement, ce chemin-là, sans qu'il y ait trop de traumatisme ou je sais pas trop. Là, parce qu'on se souvient quand on vit la pauvreté, qu'est-ce qu'on mange, puis on ne veut pas le faire vivre à nos enfants nécessairement.
Mm-hmm.
Fait que moi, je trouve que j'ai réussi quelque part sans qu'ils s'en aperçoivent.
Sans qu'ils s'en aperçoivent parce qu'ils avaient le ventre plein.
Ouais,
puis
qu'ils mangeaient à tous les jours un repas complet quand même. Là,
mais t'sais. Qu'est-ce qui vous donne l'idée, vous auriez pu arrêter ça en famille, de dire, ben là maintenant, hey, c'est le fun, on réussit à faire des bons plats, on se débrouille avec peu, de donner ça à tout le monde.
Mm-hmm.
L'élément déclencheur, c'est quand?
Ça a été, moi j'ai commencé ça en 82, et c'est 2 ans après, le Carrefour familial, qui est un organisme communautaire aussi dans le quartier, avait un projet d'aller voir les femmes monoparentales, qu'est-ce qu'ils font à la maison, et ils sont arrivés chez nous. Moi, j'étais après arranger mon sofa que j'avais. J'étais tannée de le voir, et je voulais avoir 2 causeuses, fait que j'avais rêvé que je pouvais transformer mon sofa à 3 places en causeuse.
Okay.
J'étais après coupé ça. Je l'avais tout défait, j'étais après coupé ça. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous avez le temps de prendre un café, un verre d'eau? Je dis, oui. Fait que là, on s'est assis, puis ils m'ont vu mes repas sortis qui étaient après dégelés en portions. Fait qu'ils ont dit, c'est quoi ça, ces repas-là? Ben, c'est les enfants, là. Il y en a un qui veut manger du pâté chinois à soir, puis l'autre du pâté au poulet. Fait que là, ils ont dit, ah ouais, c'est déjà prêt. Là, j'ai ouvert mon frigidaire, puis ils ont tous vu mes portions. Tout classé dans
tout
mon...
organisé.
Tout organisé. Fait que là, j'ai dit, ben oui, c'est pour asseoir ça, mais demain, je sais quoi est-ce qu'ils vont manger, puis j'en ai pour le mois. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, faut que tu nous expliques c'est quoi. Fait que je me suis mis à expliquer que je fais ça avec ma sœur. C'est des portions individuelles, puis que c'est pour les dîners-souper, puis les fins de semaine, on fait d'autres choses. Puis... Fait que là, oui, il faudrait que tu en parles. Ça, ça a pris un bon 2 ans avant que j'en parle.
Ah oui?
Ah oui, parce que je voulais pas dire au monde que j'étais pauvre, un.
Ah, c'est
et
ça.
Et deux, je sauvais 100 $ par mois sur l'aide sociale, donc j'ai pu lui permettre d'aller dans faire des sports. Je les avais embarqués dans le hockey.
Ah.
Bien là, moi, je voulais pas me faire couper. Hein? C'est toujours la peur de te faire couper.
Ouais.
Fait que j'avais dit à ma sœur, là, on n'en parle pas de suite, on verra. Puis, tu sais, mais le
toujours
Carrefour...
dans le souci, ça me touche beaucoup, toujours dans le souci de dire, ben je veux offrir un cours du sport à mes enfants.
Ben oui, ben oui, parce que je voulais faire du sport. C'est ça, puis je voulais pas me faire couper.
Ouais.
Surtout ça, puis ma sœur non plus voulait pas me faire couper. Fait qu'on on a attendu, et le Carrefour familial ont insisté beaucoup parce qu'ils ont dit, il y a plein de femmes dans le quartier qui auraient besoin de ça. Faut que t'en parles, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils m'ont parcelé, là, pas loin. Fait qu'une journée, je dis, OK, je vais aller le montrer, lui dire comment je le fais. Parce que je voulais pas le faire pour eux, je voulais qu'ils l'apprennent, tu sais.
Mm-hmm.
Et je suis arrivée dans une réunion, je pense qu'il y était 80 femmes là. J'ai fait, moi, j'ai jamais parlé en public. Fait que là, j'ai fait, là, OK, faut que j'explique ça à tout ce monde-là. Oui, 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 OK. Fait que j'ai commencé à lui dire qu'on prenait les coupons, on achetait on regardait les dépliants, puis on faisait les menus selon ce qui était en spécial sur le dépliant. Qu'on faisait l'épicerie le vendredi soir, le samedi, on coupait toutes nos affaires et on passait la fin de semaine à faire la popote pour le mois. Étant donné que nous, on avait l'habitude de le faire, ça faisait beaucoup de repas, beaucoup de portions. Fait que les femmes, ils ont dit, ben on va faire un groupe de femmes, puis on va aller trouver une autre place pour le faire, parce que là, je pouvais pas le faire chez nous parce que c'était trop petit. Fait que là, je pouvais pas recevoir 8 femmes, 8 familles. Là. Fait que là, ils ont dit, on va trouver un organisme qui va nous prendre, puis on va faire cela. Fait que je suis partie, dans le fond, ils ont trouvé le chic Resto Pop. C'est comme ça que j'ai connu le chic Resto Pop. Donc, les samedis...
Okay, est-ce qu'il était déjà baptisé le chic Resto Pop?
Oui, il s'appelait Resto Pop.
OK.
Dans le temps.
OK.
Quand moi, je suis arrivée, c'était Resto Pop. Mais quand je suis arrivée, puis que là, ils ont réussi à avoir la cuisine les samedis. Fait que les samedis, on avait, avec 8 femmes, on a fait la nourriture. Et là, je les ai brûlés un peu. Parce que moi, j'étais habituée à fonctionner 10-12 heures de travail. J'avais pas de problème avec ça, mais les autres n'étaient pas habitués. Puis en plus, ils ont rajouté sur les 7 repas, ils voulaient des tartes aux pommes, qui est autre chose, là, aussi.
OK, on voulait
ça,
plus.
Ça a débordé. Ouais, okay. Ça a débordé un peu. Ça mais fait là, qu'on a manqué notre coup un peu.
Bon, c'était peut-être un petit peu moins bon que d'habitude ou...
Non, c'était tout bon, mais c'était beaucoup de travail.
Ah, trop de travail.
Trop de travail. Je pense qu'on a fini à 10 heures le soir.
OK. Alors là, c'était vous qui étiez brûlés.
Oui. Là, on était vraiment toute la gang. Là.
OK. Comment vous vous êtes sentis quand vous arrivez, puis que là, finalement, c'est pas pour vous? C'est pour les femmes monoparentales, c'est pour les femmes et les hommes qui n'y arrivent pas à manger à leur faim,
ouais.
Puis qui veulent s'en sortir, puis veulent manger, puis avoir une vie digne. Comment vous en êtes sortie?
Ben moi, là, ce qui m'avait frappé cette journée, même si on a travaillé fort cette journée-là à faire des repas avec eux autres, c'était les témoignages qui me rendaient.
Qu'est-ce qu'ils disaient?
Moi aussi, j'arrive pas. Moi aussi, ça va m'aider, ça. Puis ah, ça, c'est une bonne recette. Moi, j'en fais pas de ça, puis je connais pas ça. Puis tu sais, là, on a échangé beaucoup d'idées de recettes, mais beaucoup de témoignages de personnes que je voyais que là, eux autres aussi vivaient la pauvreté, que moi, je savais pas. Parce que tu connais pas nécessairement ton voisin à Montréal qui a vie aussi. Fait que là, j'ai fait, comment ça, eux autres aussi, ils vivent des enfants. Ah oui, elle aussi a des problèmes avec ses enfants.
Qu'est-ce que ça vous faisait comme émotion?
Bien, moi, l'émotion, je vous dirais, j'étais fière de leur montrer comment on pouvait s'en sortir à pas cher. Puis de leur montrer que c'est pas parce que t'arrives pas que tu peux pas t'en sortir. On va se mettre ensemble et on va le réussir. Puis c'est comme ça que je pense que les cuisines collectives ont émergé de plus grand que ce que je pensais.
Ouais.
À cause de ça, c'est de montrer cette fierté-là à ces femmes ou à des hommes, parce que maintenant, il y a des groupes pour les purées de bébés, les personnes âgées.
Ça s'est développé. Ça fait des petits, comme on dit.
Beaucoup. Il y a 1400 cuisines collectives aujourd'hui au Québec. Fait que je me dis, quelque part, c'est une formule gagnante pour des gens qui veulent s'en sortir sans être toujours à quémander. Parce que moi, mon but à moi, c'est de ne pas dépendre de quelque chose. J'ai le système D, mais pas dépendre d'eux.
Ouais.
Fait que moi, je voulais pas aller dans des dépannages alimentaires. Je voulais pas faire ça. C'est correct de le faire pour certains les gens, mais moi, je voulais me débrouiller avec ce que j'avais. Puis de montrer à d'autres ça, là, ça a été ma fierté quand même. Ça.
Ben, je comprends.
Les cuisines, là, ouais. Ça, c'est vraiment... Puis ça aide encore des femmes aujourd'hui, d'ailleurs.
Et tout à fait.
Ouais.
On fait une pause publicitaire. On revient tout de suite avec vous, avec la suite de votre belle histoire.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, et comme invités aujourd'hui, ces gens qui font la différence, Jacinthe Ouellette, directrice générale du Chic Resto Pop. Alors le chic, c'est devenu quand? Quand est-ce qu'on a rajouté le chic dans le mot? Parce qu'au début, vous arrivez là, ça bouge tellement qu'il y a les tartes aux pommes qui se rajoutent, puis là, ça finit plus. Puis ça fait des petits, comme on dit. Quand est-ce qu'il y a le chic qui revient?
Le Resto Pop est parti en 1984, qui s'appelait Resto Pop. Moi, quand j'ai été travailler là les fins de semaine pour les cuisines collectives, après, il y a eu une offre pour moi d'un poste. Et là, moi qui étais sous l'aide sociale, parce que dans ces années-là, j'ai travaillé pendant un mois au noir, comme on dit, parce que je ne voulais pas quitter l'aide sociale. C'est insécurisant quelque part de quitter l'aide sociale quand tu tombes sur un salaire puis que tu ne sais pas trop si ça va durer. Fait qu'avant que je fasse le saut, j'ai compris le Resto Pop, c'était quoi l'organisme communautaire, à quoi ça servait. Je voyais le monde arriver manger là. Je voyais du monde appauvri, des enfants qui venaient manger au Resto Pop. Puis là, tu sais, j'étais plutôt curieuse de voir comment ça fonctionnait. Fait que j'ai embarqué sur un programme dans ces années-là, avec un programme...
Oui, c'est le programme qui vous a permis de commencer à travailler là.
Et c'est comme ça que j'ai connu le Chic Resto Pop, apprendre la manière du fonctionnement, l'approvisionnement, toutes les denrées alimentaires. Dans le fond, j'ai fait le début du Resto Pop, à aller chercher des denrées alimentaires, rencontrer des fournisseurs, avoir des meilleurs coûts sauvés et aller récupérer des dons surtout, parce que le Resto Pop a toujours récupéré des aliments pour faire des repas. On transformait les repas. Et en 92, j'ai pris la direction générale chez Resto Pop. Et moi, je m'ai toujours dit, parce qu'on était dans un sous-sol d'église, on était là pendant 19 ans. Et moi, je me suis toujours dit, un jour, il va être chic, le Resto Pop. Moi, le sortir de là, je vais arrêter d'être dans un sol fermé. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut être...
Il faut se cacher, dans le fond.
C'est
là.
Ça. Ouais. Et moi, là, j'étais pas capable de durer ça. J'ai travaillé fort pour le déménagement. On est d'une bonne équipe qui a travaillé fort. Mais je me suis dit, on va s'appeler le chic Resto Pop. Ça, je trouve que... faut donner la dignité à ces gens-là, puis il faut être fier d'être chic.
Exact.
Fait que ça, c'était le début. On a changé ce nom-là, Chic Resto Pop. Et ensuite de ça, quand l'idée m'est venue de déménager, parce que là, on n'avait plus de place, et ça grossissait le resto. On avait trop de denrées alimentaires qui se perdaient. On avait beaucoup de dons. On avait du monde, là. On avait 105, à ces moments-là, on avait 105 personnes sur programme extra. Donc, les personnes faisaient 20 heures semaine pour travailler. Parce que nous, ça a toujours été la prise en charge. Mm-hmm. On te montre le métier, apprends à travailler, puis toi, tu vas aller travailler après.
Mais un petit peu, c'est comme vous avez fait.
Toujours.
Parce que comme au début, quand les femmes vous demandent de venir, là, c'est ça, vous dites, bon, mais moi, je vais pas le faire, là.
Non, non.
Je vais vous le montrer.
Je vais vous montrer comment
vous
débrouiller.
Quoi faire, vous débrouiller.
C'est ça, vous débrouiller.
Alors, donc, c'est ça.
C'est comme ça, et ces gens-là, on les a montrés, dans le fond, à faire le triage des fruits et légumes qu'on recevait, de reconnaître un bon produit. Fait qu'on a tout montré ce bout-là. Moi, j'ai fait ce boulot. Après, j'ai travaillé dans la cuisine à faire les menus. J'ai fait ça pendant quelques années, à faire des recettes, à faire les menus pour le Chic Resto Pop, parce qu'il y avait pas, quand moi, je suis arrivée, il n'y avait pas de livre de recettes. Et j'ai fait un livre de recettes, dans le fond, au début, faire des recettes écrites pour que les personnes qui viennent apprendre le métier, pour moi, c'était venir apprendre le métier. Fait qu'il fallait qu'il y ait une recette à suivre et il fallait qu'ils suivent la recette et tout ça. Et ensuite de ça, après, j'ai travaillé au niveau directement avec le client, dans le fond, recevoir le client, faire le crédit, le montrer comment ça fonctionne le Resto Pop, dans le fond, et de le montrer d'être fier de venir manger au Chic Resto Pop aussi. Fait que c'est tout ça, j'ai appris ça sur le terrain. Hein, et en 92, je suis devenue la directrice générale. Et c'est comme ça que ça a grandi. Mais en 94-95, parce qu'on a parti plusieurs petites entreprises, il y a le Chic Resto Pop. En 91, on a parti la Pop Mobile, qui est les repas pour les enfants dans les écoles du quartier, au niveau défavorisé aussi. Et en 94, on a parti les produits de terroir, qui est des repas congelés, qu'on va livrer à domicile pour les personnes âgées, personnes en perte d'autonomie. Parce que dans les années qu'on était au sous-sol, les personnes handicapées ne pouvaient pas venir manger au Resto Pop. Et moi, je disais, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de monde qui ont besoin de ça. Fait qu'on s'est... À un moment donné, on s'est dit, il faut déménager le resto. Là, j'étais plus on était... trop serré dans les murs du sol. Ça n'avait pas de bon sens.
Oui, puis vous l'avez dit aussi, vous vouliez sortir, montrer, il y avait une fierté là-dedans. Dire c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on veut se cacher. Là.
Non, c'est
donc,
ça.
Là, et puis en plus, il y a aussi votre organisme fait en sorte que vous aidez les sans-emploi.
Aussi.
En autre branche.
C'est ça. Fait que ça a été, pendant 9 ans, j'ai travaillé fort pour trouver du financement, parce que le projet, puis de trouver le lieu où est-ce qu'on peut déménager le Chic Resto Pop, parce qu'on a fait beaucoup de démarches, mais en 82 000, le vicaire épiscopal du quartier me dit, écoute, Jacinthe, ça t'intéresse, l'église Saint-Mathias, elle serait avant. Là, j'ai fait, ah ouais, moi, je la connaissais, cette église-là, je l'avais déjà vue. Ah, il me semble, le resto, il rentre là-dedans. Parce que c'était gros, là, quand même, le resto, dans ces années-là. Fait que j'ai fait ma lettre le lendemain matin pour l'archevêché, je veux cette église-là. Ouais. Et là, on a commencé des démarches avec le conseil d'administration pour l'achat. Et ça a pris, dans le fond, là, on a acheté en 2002, depuis 2000 que je faisais des démarches. En 2002, on a trouvé l'argent pour l'acheter. Et en 2004, on déménageait le Chic Resto Pop avec le Chic Resto Pop.
Que vous avez racheté.
Oui. Oui, qu'on a acheté l'église, oui.
Au niveau, parce que vous en avez parlé, on va aller sur ce terrain-là, vous avez dit, j'ai pas de subvention.
Mm-hmm.
Vous en avez jamais eu?
On a des subventions, mais il n'y avait pas de subvention. Dans le fond, on a des subventions. Nous, on reçoit de Centraide, on reçoit de l'Agence des services sociaux, le PSOC. Ça, c'est vraiment des subventions qui s'adressent direct à la clientèle du restaurant.
OK.
Au niveau des enfants, les repas dans les écoles, ça, c'est la Commission scolaire de Montréal qui paye une partie des repas et les parents payent 1 $. Parce que c'est toujours la prise en charge qu'on veut, nous, des personnes.
Ouais. Ou 3 $ quand ils vont sur place.
C'est ça. Il n'y a rien de gratuit. Ouais. Il n'y a rien de gratuit. Donc, les gens payent pour le service qu'on leur donne. Et ils ont le droit de nous critiquer, comme ils ont le droit de dire le menu n'est pas bon ou il est bon. Okay. Mais nous, pour nous, c'est important, ça.
Donc, les subventions au fonctionnement, en avez-vous?
Oui, mais c'est ça. C'est
fragmenté.
C'est ça. Okay. Et naturellement, là, chez Cresto Pop, en déménageant, nous sommes devenus une entreprise d'insertion. On fait partie du regroupement du collectif des entreprises d'insertion, mais on est une entreprise d'insertion. Donc, on doit montrer les métiers d'aide cuisinier, réception, expédition et service à la clientèle aux personnes qui sont sur l'aide sociale. Nous, les gens qui viennent au resto, c'est du monde entre 18 et 55 ans. Et c'est du monde que ça fait 5 ans et plus qui sont sur l'aide sociale. Ce n'est pas du monde qui sont sur la... On a quelques personnes sur le chômage, mais ce n'est pas du monde qui sont près du marché du travail, mais loin du marché du travail.
Okay.
Et on réussit quand même, malgré tout ça, à lui montrer ces métiers-là. Et on a 78 % de placements dans des entreprises. Que c'est du monde qui... Ils ne reviennent
c'est
pas nécessairement.
C'est excellent, ça. 60, c'est bravo. Ouais.
Ils viennent chercher un 80 % d'un DEP.
C'est extraordinaire.
Et on leur apprend aussi toute l'employabilité et tout ça.
Alors là, on est dans la beauté de la chose. Si je demandais... vos bas, parce que vous me l'avez dit, j'ai eu des hauts et des bas.
Oui, on a eu
ça a l'air de quoi, vos bas, là?
Bien, c'est du financement qui manque pour faire toutes nos affaires. Il y a des années que j'ai connu des années qu'il y avait des subventions qui ont coupé, puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec rien. Là, il y a cette... Là, ce qu'on sent, c'est ce vent d'austérité-là qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir comme retombée. Pour cette année, on n'est pas pire, mais pour les autres années, on se pose des questions parce qu'on n'entend pas parler vraiment de qu'est-ce qui se passe au niveau des décisions gouvernementales. Fait que je ne sais pas ça va être quoi la retombée. C'est sûr que le chèque Resto Pop est on a toujours une petite situation, même si on a un bâtiment. C'est une situation qui nous manque toujours 150 000 par année au niveau d'y arriver. Donc, on fait activités de financement. On fait un jeudi gourmand avec les restaurateurs. Ça fait que
donc, vous êtes 150 000 dans le trou, là,
à peu près, tout le temps.
À
là,
chaque fois.
C'est ça. Mais qu'on réussit, bon, là, à aller en chercher un peu par des donateurs. Il y a du monde qui nous donne sans nous dire le pourquoi. Et on reçoit un chèque. Mais il y a à peu près la moitié qu'il faut que je fasse des recherches au niveau de subventions, fondations, de recherche de financement, là, comme on fait, puis nos activités de financement qu'on fait aussi.
Quand vous regardez en arrière, 30 ans, c'est quoi que dont vous êtes le plus fier?
Moi, je vous dirais, le 30 ans, c'est de... La première affaire, c'est d'emmener du monde sur le marché du travail, de les voir s'en sortir, qu'ils reviennent nous dire merci. La page, j'avais justement, avant de m'emmener un témoignage sur mon téléphone, d'une madame qui nous a félicité parce qu'on a sorti hier, mais qui a dit, je vous encourage à... J'ai aimé le chez Cresto Pop, il m'a aidé. Maintenant, je reste à Laval, je m'en ai sorti. Fait que j'avais ce message-là sur mon téléphone justement avant de venir un matin. J'ai dit, oh wow, enfin! Tu sais, il y a, ça toujours donne... comme du monde qui nous reconnaît.
Des vitamines pour continuer.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Puis vous leur passez le message dans les moments où vous avez moins d'énergie.
Mais tu sais, on a une équipe. Il y a une équipe en arrière de moi. Là, c'est pas juste moi, mais il y a une grosse équipe de travail.
Vous avez beaucoup de monde, là.
Oui, on est 37 employés salariés.
C'est ça, j'ai regardé ça,
Il y a 80 personnes qui passent dans l'entreprise d'insertion au niveau du métier, parce qu'on fait les trois métiers que je vous nommais tout à l'heure, mais il y a aussi aide éducatrice pour les enfants dans les écoles. On le montre, ce métier-là aussi, qui eux autres vont dans les garderies ou des CPE travailler.
Comment vous êtes comme DG?
Moi, je ne suis pas une DG autoritaire. Je ne suis pas une DG contrôlante non plus. Ça fait que j'essaye d'être entre les deux, mais des fois, je me fais jouer des petits tours parce que trop patient, trop... mais en même temps, je ne regrette pas parce que je suis comme ça.
C'est votre personnalité.
Mais je pense que ça prend... J'ai été chercher des alliés dans l'équipe de travail qui font un autre bout que moi, je peux pas ou que j'ai pas. Puis je suis capable d'accepter mes faiblesses et mes forces.
Une grande femme, c'est bien s'entourer, comme on dit.
C'est ça. Je pense qu'il faut s'entourer de toute manière avec les autres. On est toutes là pour s'aider de toute manière.
Seconde chanson, votre choix. Jean Ferrat, c'est beau la vie.
Ouais.
Pourquoi?
Bien, premièrement, moi, je suis optimiste, je pense. Et je trouve que c'est une chanson qui nous berce, que c'est une chanson, c'est beau la vie. Je trouve que c'est vrai que la vie, elle est belle. C'est ce qu'il y a dedans, c'est les gens autour qui fait que des fois, c'est pas le fun tout le temps. Mais la vie, elle continue d'être belle. Moi, j'ai toujours aimé cette chanson-là.
Alors, on l'écoute.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Alors, c'est beau la vie?
Oui, c'est beau la vie.
Quand on peut la transformer, quand on peut la changer.
Tout à fait. Puis de voir les gens qui sont heureux là-dedans aussi. Parce que oui, tu fais un pas là, pour aider, mais en même temps, quand tu le laisses la place, ils l'apprennent. Ils sont capables, mais il faut juste le laisser une place.
Mmh. Alors, quelques sujets. En 2014, je vais avoir votre opinion. Si je vous dis, je vais vous en donner quatre. Si je vous dis en 2014, la faim, pour vous, c'est quoi?
La faim, je dirais que c'est... Elle est toujours là. Elle est grandissante même. Je pense qu'il y a, une limite à ce que les gens peuvent acheter. Et je pense qu'il va falloir faire un... Il faut faire un virage. Je ne sais pas comment moi-même, là, parce que autant que j'ai quand même un salaire pas payé, là, qui est au niveau du communautaire, mais... Moi-même, j'ai eu de la misère à arriver. Fait que je me dis, imaginez-vous les personnes. Fait que cette faim-là, je sais qu'il y a des enfants qui ne mangent pas. Et le Chic Resto Pop, en tout cas, on a un gros projet là, pour l'avenir, qui est la cantine pour tous. On aimerait que tous les enfants du Québec mangent. On aimerait que ce projet-là fonctionne. On l'a présenté hier, justement, à Jivois Montréal. On aimerait ça que ça avance, que quelqu'un prenne la responsabilité de ces enfants-là, parce que je pense que ça, c'est primordial pour les enfants. L'avenir de ces enfants-là, faut trouver un moyen de les nourrir.
Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Parce que vous et moi, on sait que ça existe. Moi, je, comme comédienne, j'ai vu des enfants, avant de faire une pièce de théâtre, qui s'évanouissaient.
Oui.
Et j'ai arrêté ma pièce en disant pourquoi les enfants s'évanouissent. Ils m'ont dit, Sophie, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé.
Mais oui.
Alors,
mais
je suis allée avec mon technicien, on est allé acheter de la bouffe, puis on s'est dit, non, regarde, on ne fera pas le spectacle. Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'on n'en parle pas assez, justement, que ça se passe chez nous, que les enfants...
Moi, je pense qu'il faut en parler plus. Ouais. Effectivement, parce que pour avoir vu des professeurs aussi qui nourrissaient les enfants avant de commencer la classe, ça, j'ai vu ça, parce que les enfants, ils arrivent à l'école, ils n'ont pas mangé.
Oui, il y a des services qui se font. Nous, on fait les dîners. Il y a des collations dans les écoles, mais souvent, le parent n'a pas l'argent pour faire la boîte à lunch des enfants. Nous, on voit ça à chaque année, là, des sandwichs au cocombe comme boîte à lunch. Ouais, là. Pour des enfants, là, c'est... Moi, j'ai connu ça quand j'étais petite, mais là, c'est 60 ans plus tard, c'est encore ça. C'est ça qui marche pas, là. Il y a quelque chose
qui marche pas. Bien-être social?
Bien-être social, je pense que c'est un dû pour des personnes qui en ont vraiment besoin, parce qu'il y en a qui en ont besoin, il y en a qui seront jamais capables d'aller travailler, ça, c'est clair. Ces gens-là ont besoin d'aide quand même au niveau de les aider ou les mettre dans un réseau social. C'est pas parce qu'ils sont sur l'aide sociale qu'il faut les mettre de côté. Je pense qu'il y a du monde là-dedans qui ont des talents, surtout, et qui ne s'est pas reconnu et qu'on ne les voit pas, mais il faut le parler pour le voir. Il faut voir ces personnes-là. Ils ont tous un cheminement de vie qui les a emmenés vers ça. Et c'est des fois, c'est de la santé qui t'emmène là. Ce n'est pas voulu nécessairement. Fait que moi, je pense que l'aide sociale, il faut qu'elle reste. Il faut que les gens continuent à recevoir un montant comme soutien, parce que ça n'a pas de bon sens non plus de toujours couper.
Pauvreté.
La pauvreté, oh là là! Ça, comme je vous disais, ça fait 60... Moi, j'ai 62 ans. Ça fait 62 ans que je connais ça. Pour l'avoir vécu, la vivre de temps en temps, on a toujours des hauts et des bas. Mais c'est quelque part, hier, justement, dans la marche, on parlait de ça. Quelque part, il y a du monde qui veut qu'il y ait de la pauvreté. Parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens de développer des choses qui coûtent une fortune, puis qui ne mettent pas sur des priorités de l'individu qui est après mourir de l'autre bord. Moi, je la comprends pas. Il n'y a personne qui me l'a expliqué non plus. Là. Mais je trouve que la pauvreté, ça ne devrait pas exister, ça. Et pour l'avoir vu même, la vraie pauvreté en 98, quand il y a eu le verglas, là, nous, le Resto Pauvre, on était ouvert 5 jours, 24 heures par jour pour aider ces gens-là. Et du monde là, qui n'avait même pas de couverte là, pour venir se coucher au resto, parce qu'on a offert pour la nuit. Le monde n'a même pas rien. Il y en a du monde qui n'ont rien. C'est ça qui marche pas.
L'hiver vient de commencer. Il y a encore des gens qui n'ont même pas de manteau ni de bottes.
Tout à fait.
Les enfants.
Non, c'est ça. C'est fou, là, tout ce qui peut. Les manques, c'est des manques pour certains gens. Puis c'est pas parce qu'il y a un manque que ça va durer toute leur vie. C'est juste des aider pour qu'ils s'en sortent un moment donné.
Oui, puis votre organisme fait la différence.
Bien, on essaie.
Vous voyez des gens, justement, on en parlait de Daniel plus concrètement, qui reviennent, qui viennent vous voir, puis vous témoigner de
tout à fait.
Je m'en suis sorti, puis je travaille, puis en plus, il aide dans un organisme.
Tout à fait.
Alors, dernier
sujet. Au niveau de la pauvreté, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent dans ce même secteur que moi. On est plusieurs à vouloir que la société change un peu aussi. Fait qu'on essaie, on fait toute notre possible, là, je pense, avec les moyens qu'on a.
Les femmes 2014.
Les femmes 2014, je pense que c'est je vois ma bru qui rush un peu avec trois enfants, la garderie, c'est cette vitesse-là que j'ai un peu de misère à que les femmes, je les trouve courageuses là, de faire ça, là, de s'occuper des enfants à la garderie, d'arriver les devoirs, là. Je l'ai faite, moi aussi, mais c'est comme si je ne m'en ai pas aperçue parce que j'avais fait un arrêt de travail, dans le fond, pendant 5-6 ans. Fait que j'avais le temps de m'occuper des miens. Mais là, je les vois, eux autres, là, rouler vite. Je pense qu'il va falloir que le travail famille, je trouve ça important qu'au niveau du travail, qu'il y ait ce pouvoir-là. En tout cas, dans le communautaire, on l'a. Si les femmes qui ont des enfants, qui vont travailler, ils peuvent faire le changement d'horaire. On peut améliorer. Je trouve, au niveau du communautaire, on a plus de facilité à aider ces femmes-là.
Être première ministre, vous changeriez quoi?
Oh, mon Dieu! première affaire, je pense que je regarderais tous les budgets pour voir comment ils gèrent ça. Je pense que ça sera la première affaire. Parce que je pense qu'il y a de l'argent qui se gaspille. Et là, ils coupent sans regarder c'est quoi les conséquences. Je ne sais pas où ça s'en va non plus. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a une idée de voir pour l'ensemble du Québec où est-ce qu'on s'en va. Mais je ne sais pas si je ferais changer quelque chose.
Vous regarderiez les colonnes de chiffres, si je comprends bien.
Je pense que oui. Je regarderais ça.
Est-ce que vous mettrez plus d'humains?
D'humains, pas nécessairement, mais je regarderais comment faire autrement. Parce qu'il y a sûrement un moyen de faire autrement. Oui, je sais pas.
On fait une petite pause et on revient cette fois-ci avec notre questionnaire en fin d'émission.
Alors, Jacinthe Ouellette, on est rendu cette fois-ci au jeu questionnaire. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Les personnes qui m'ont inspiré, j'en ai quelques-uns. C'est sûr qu'au niveau du communautaire, j'ai du monde qui ont travaillé autant que moi dans le communautaire, autant d'années, qui est Janelle Bouffard, Nicole Machanga. C'est été des femmes de cœur aussi, des femmes qui ont voulu que le quartier change, qu'on améliore la situation de ces personnes-là. Fait que je me reconnaissais en eux au niveau des valeurs pour aider les gens. Dans le temps que je travaillais à l'hôpital, j'avais quelqu'un, une boss super fine, Madame Toraval, qui comprenait très bien les employés. Je pense que ça a été des modèles aussi comme boss. De voir, c'est une femme qui était vraiment à l'écoute des employés. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien, là, comme
alors,
comme
elles vous ont inspiré,
oui,
ces femmes-là. Vos mentors?
Mes mentors, surtout, moi, je dirais que c'est dans le communautaire du monde qui vont, là, Nicole Bachanga, Janelle, ça a été des mentors, ça, au niveau d'apprendre c'est quoi le communautaire, mm-hmm. c'est quoi les valeurs, là, ouais.
Vos livres, qu'est-ce que vous lisez?
Moi, je lis beaucoup de livres, plus des livres de détente que des livres très sur la réflexion ou pas. Moi, j'ai bien aimé les Chevaliers d'Émeraude, qui est une série de 12 livres que j'ai adoré, que ça m'a aidé à m'évader.
Alors, les Chevaliers.
Tête.
Ah oui, alors ouais. Les Chevaliers, donc on vous recommandez si quelqu'un a envie de s'évader.
Oui, c'est très bon.
Oui.
Il y a 12 livres, là, mais c'est bon.
OK. Donc, on commence par le premier ou on peut les avoir en désordre?
Non,
c'est mieux de prendre le premier.
C'est le premier pour comprendre tout ça. Ouais.
Parfait. Les artistes que vous aimez?
Moi, j'aime bien Marie-Mé. Je la trouve brillante et éclatante pour la jeunesse qui grandit. J'aime ses chansons aussi parce que je trouve qu'elle a des bonnes chansons, c'est entraînant. Et vraiment, Marie-Mé, je trouve que c'est un modèle pour l'avenir des jeunes filles.
Et les villes que vous nous recommandez, ou ça peut être un village, ça peut être que vous préférez?
Moi, j'aime bien, j'aime le Québec. J'ai visité quelques places au Québec. Je n'ai pas voyagé beaucoup. Moi, je suis allée une fois en voyage en Espagne, mais le Québec, ça, j'ai plus voyagé autour du Québec. Puis moi, j'aime bien le Nord. J'aime le nord de Montréal, j'aime les montagnes et tout ça, là, ce coin-là, j'aime ça.
Alors, quels sont vos projets en terminant pour le Chic Resto Pop? On en a parlé pendant l'émission. Ça, c'est un projet à long terme, mm-hmm. mais qui est vraiment fantastique.
Oui, la cantine, là,
la
pour
cantine
tous.
Pour tous. Est-ce que ça a été déposé au niveau du gouvernement? Comment c'est rendu?
On a fait des démarches, effectivement, au niveau du gouvernement. On l'a déposé à Givois Montréal. On en parle tout le temps mm-hmm. parce que, dans le fond, c'est avec les organismes communautaires qui nourrissaient les enfants. Ça fait quand même depuis 91 qu'on nourrit les enfants. On est 10 groupes à Montréal qui nourrissent ces enfants-là. Et on a formé un collectif qui s'appelle le collectif de la table des écoliers. Et c'est nous-mêmes qui présentons ce projet de cantine pour tous. Parce que ça, c'est un projet d'avenir mmh. pour les enfants. On est le seul pays au Québec qui nourrit pas ses enfants. Et ça, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Merci, merci beaucoup de cette heure passée avec vous. Merci pour ce que vous faites. Vraiment,
merci.
C'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire combien vous faites du bien pour tout le monde, madame.
Ah ben merci.
Merci. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté à la réalisation de l'émission, ma recherchiste Christiane Campagna et aux médias sociaux Claudia Benoît. Et on se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs, et prenez soin de vous. Bye bye.